Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 18, Daf Yud Chet. Bonne écoute et bon limoud.
Ve'et Hamelach et le dépôt de sel, Ve'et Hasid et le dépôt de pierres de chaux qui ont été brûlées dans un four, Ve'et Aslaim et un dépôt de pierres de silex, Mikotlo Shel Chavero, du mur de son voisin, Shlosha Tfachim, d'une distance de 3 Tfachim, Vesad Besid, ou bien il faudra enduire le mur de son voisin avec de la chaux. Alors la Gemara déduit, Tama Deika Kotel, ce n'est que parce que le mur du voisin existe qu'il faut éloigner ces produits toxiques de ce mur. Ha Leika Kotel, mais si le mur du voisin n'existait pas parce qu'il ne l'avait pas encore construit, sommaire, il aurait eu le droit de s'approcher de la bordure de son terrain, donc sans prendre de précautions. Bien que, comme l'explique le Tosfot, l'agent actif de ces produits toxiques est absorbé par la terre sur laquelle ils ont été entreposés et il reste nocif même après avoir été enlevé. Donc nous pouvons déduire de notre Mishnah que lorsque le voisin n'a pas construit de mur, il est permis d'entreposer ces produits toxiques à la bordure de son terrain. Parce que sinon, la Mishnah aurait dû simplement dire qu'on doit éloigner ces produits toxiques de la bordure de son terrain. L'enseignement de la Mishnah est donc en opposition avec l'enseignement de Rava. Cependant, comme le précise le Tosfot, cette question ne se posera que selon l'opinion des Chachamim, qui sont stricts concernant les précautions qu'une personne doit prendre pour ne pas gêner ses voisins. Mais, suivant l'opinion de Rabbi aussi, qui est moins stricte, cette question ne se posera pas parce que même Rava sera d'accord qu'il sera permis de déposer des produits toxiques sur la bordure de son terrain sans prendre de précautions, parce que le dégât causé par ces produits n'est pas considéré comme direct et immédiat, puisque le mur du voisin n'a pas été encore construit. D'ailleurs, de toute façon, l'opinion de Rashi est, comme nous le verrons plus loin, d'Af Kavbet Amoudbet, le fait de déposer des produits toxiques, même en présence du mur de son voisin, n'est pas considéré comme un dégât direct et immédiat pour lequel cette personne doit prendre des précautions. Alors l'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, mais qu'il est qu'à Kotel, même si le mur du voisin n'existe pas encore, Nami lo Samir, il sera aussi interdit de déposer des produits toxiques. Alors la question se pose, Ve'ela Maika Mashmalan, si c'est ainsi, qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne lorsqu'elle précise qu'il est interdit de déposer des produits toxiques auprès du mur du voisin, puisque c'est interdit même lorsque le mur n'existe pas encore? L'Agma répond, Hakamash Malan, c'est cela que la Mishnah vient nous enseigner. Dehane kashu le kotel, que ces produits toxiques sont nocifs pour les murs. Alors la Mishnah nous donne tout d'abord un conseil d'ordre pratique, qui est celui d'éloigner les produits toxiques de ces murs. Et en plus, comme l'explique le Ritva, si nous sommes persuadés que le voisin ne construira pas de mur à la bordure de son terrain, il sera permis de faire un dépôt de produits toxiques sur la bordure de son terrain. Alors l'Agmara continue, Tashma, viens écoute une preuve d'une autre partie de la Mishnah. En effet, la Mishnah dit, Marikim et Azraim et Tamachrisha, il faut éloigner les semences et la charrue, Vet Meraglaim et l'urine, Mina Kotel, du mur du voisin, Shloshat Fachim, d'une distance de 3 Tfachim. Donc, il est interdit de semer, de labourer et d'uriner près du mur du voisin. Parce que, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, cela risque d'abîmer le mur du voisin. Alors, la Gemara déduit, Tama Deika Kotel, ce n'est que parce que le mur du voisin existe qu'il faut éloigner les semences, la charrue et l'urine, Ha Leika Kotel, mais si le mur du voisin n'existait pas, Samir, il serait permis de se rapprocher de la bordure de son terrain pour semer, labourer ou uriner. Bien que les céréales ou les autres plantes, et aussi le labour, ont pour action d'ameublir la terre, de manière à ce que le mur qui sera construit par la suite par le voisin sera instable et s'écroulera. Et aussi, bien que l'humidité causée par l'urine reste longtemps sur place, cette humidité sera donc nocive pour le mur, même s'il est construit longtemps après. Nous avons donc d'ici une question sur l'opinion de Rava. L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, qui l'éka kotel, même si le mur du voisin n'existe pas encore, Nami lo Samir, il n'aura pas le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour semer, labourer ou uriner. Alors la Gemara demande, Ve'ela Maika Mashmalan, si c'est ainsi, qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner lorsqu'elle précise qu'il est interdit de semer, labourer ou uriner à proximité d'un mur, alors qu'il est interdit de le faire même si un mur n'existe pas. L'Agma répond, Hakamashmanan, c'est cela que la Mishnah vient nous enseigner, de metunta, cacher le kotel, que l'humidité causée par l'urine est nocive pour le mur. Et d'ailleurs, comme l'explique le Nahalat Moshe, l'Agmara a omis de le dire pour rester concise. La Mishnah vient nous enseigner aussi que les semences et le labour sont nocifs pour le mur. Il s'agit donc d'un conseil d'ordre pratique, comme nous l'avons expliqué plus haut. Alors l'Agmara continue, Tashma vient écouter une preuve d'une autre partie de la Mishnah qui dit, Ve'et harechaim, il faut éloigner le moulin du mur du voisin d'une distance de Shlosha Minashrav, de trois tfachim de la pierre inférieure, Shehem Arba'a Minarechev, ce qui fait une distance de quatre tfachim de la pierre supérieure, qui est plus petite. Alors la Gemara déduit ici aussi, Tama de Ikakotel, ce n'est que parce que le mur du voisin existe qu'il faut éloigner le moulin de ce mur. Ha, les kakotel, mais si le mur du voisin n'existe pas encore parce qu'il n'a pas été construit, Samir, il a le droit de rapprocher ce moulin du bord de son domaine, bien qu'il sera difficile par la suite de l'enlever lorsque son voisin voudra construire son mur. Celui-ci s'écroulera donc à cause des vibrations causées par le moulin. Nous avons donc d'ici une question sur l'opinion de Rava. L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, qui l'éka kotel namilo samir. Même lorsque le mur du voisin n'existe pas encore, il est interdit de se rapprocher du bord de son domaine pour installer un moulin. L'Agma demande, ve'ela maika mashmanan, si c'est ainsi, qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner lorsqu'elle précise qu'il faut éloigner le moulin du mur du voisin, puisque finalement il est interdit d'installer un moulin sur le bord de son domaine de toute façon. L'Agma répond, Hakamashmanan, c'est cela que la Mishnah vient nous enseigner. De tiraya, cacher le kotel, que les vibrations sont nocives pour le mur. Il s'agit donc, comme nous l'avons expliqué plus haut, d'un conseil d'ordre pratique. L'Agma continue, Tashma, viens écoute une preuve d'une autre partie de la Mishnah. La Mishnah dit, Ve'et hatanur, il faut éloigner le four du mur de son voisin, d'une distance de Shlosha Minakalia, trois tfachim du bas de la base qui supporte ce four, Shehen Arba Amina Safa, ce qui fait une distance de 4 tfachim du haut de cette base, dont la surface est plus petite. Alors l'Agmara déduit ici aussi, Tama dit Kakotel, ce n'est que parce que le mur du voisin existe qu'il faut éloigner le four. Ha, les Kakotel, mais si le mur du voisin n'existe pas encore, Samir, il aurait eu le droit d'installer son four au bord de son domaine, bien qu'il sera difficile de l'enlever par la suite lorsque son voisin construira son mur, celui-ci s'écroulera à cause de la chaleur dégagée par le four. Nous avons donc d'ici une question sur l'opinion de Rava. L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah. Qu'il est kakotel, même si le mur du voisin n'existe pas encore, namilo samir, il est interdit de se rapprocher du bord de son domaine pour installer un four. L'Agma demande, Ela maika mashmalan, si c'est ainsi, qu'est-ce que la Mishnah a voulu nous enseigner lorsqu'elle précise qu'il faut éloigner le four du mur de son voisin, alors que même si ce mur n'existe pas, il faut de toute façon s'éloigner du bord de son domaine. L'Agma répond, Hakamashmalan, c'est cela que la Mishnah vient nous enseigner. De Havla, cacher le kotel, que la chaleur est nocive pour le mur. Il s'agit donc, comme nous l'avons expliqué plus haut, d'un conseil d'ordre pratique. Alors l'Agma continue, Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah qui a été enseignée plus loin, d'Afka Famudbet. Lo yiftach adam chanut shel nachtomin. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie veshel tzabaïn, ou bien une teinturerie, tachat otzaro shel chavero, sous l'entrepôt de son prochain, dans lequel il entrepose des céréales ou du vin, etc. Parce que la chaleur dégagée par la boulangerie ou la teinturerie est nocive pour la nourriture qui est entreposée dans cet entrepôt. Velo refet bakar, et non plus il n'aura pas le droit d'ouvrir une étable sous l'entrepôt de son prochain, parce que l'odeur dégagée par l'étable est nocive pour la nourriture. Alors la Gemara déduit, Tama di kaotzar, c'est seulement parce que son prochain possède un entrepôt sur l'endroit où il veut ouvrir cette boulangerie, etc., qu'il n'a pas le droit de le faire. Ha, le kaotzar, mais si cet endroit en question n'était pas utilisé par son prochain comme entrepôt, mais pour autre chose, qui n'est pas dérangé par la chaleur d'une boulangerie ou d'une teinturerie, avide, il a le droit de le faire, même si par la suite, lorsque le voisin du dessus décidera de faire de cet endroit un entrepôt, celui du dessous aura du mal à fermer sa boulangerie ou sa teinturerie. Par conséquent, le voisin du dessus sera gêné par la boulangerie du voisin du dessous. Nous avons donc une question d'ici sur l'opinion de Rava. La Gemara répond, Dira Shani. Lorsqu'il s'agit d'un logement, c'est différent. C'est-à-dire, il est impossible de limiter l'utilisation d'un logement pour en faire quelque chose que n'importe qui a besoin. Par exemple, comme un magasin ou une étable, lorsque son voisin n'est pas dérangé par cela, sous prétexte que plus tard, il voudra transformer l'étage du dessus pour en faire un entrepôt. Lorsque Rava a imposé de prendre des précautions, même lorsque le voisin n'est pas gêné dans sa situation actuelle, c'est lorsqu'il s'agit de choses qu'il peut facilement faire ailleurs. Alors, l'Agma conclut là-dessus, des calamis, on peut effectivement déduire que pour l'utilisation d'un logement c'est différent, et lorsque le voisin n'est pas gêné dans sa situation actuelle, il est permis d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie, d'étané à là, parce qu'il a été enseigné une braïta justement sur cette Mishnah qui dit ainsi, « Im haïta refet bakar kodemet leotzar » Si l'étable a été ouverte avant l'entrepôt du voisin du dessus, moutard c'est permis. En d'autres termes, il est donc permis d'ouvrir une étable lorsque le voisin du dessus ne possède pas encore d'entrepôt. Cette dérogation n'a pas été enseignée concernant les autres précautions. Apparemment donc, lorsqu'il s'agit d'un logement, les chachamim n'ont pas limité son utilisation lorsque le voisin n'est pas gêné dans sa situation actuelle. Tashma. Bien écoute une preuve d'une Mishnah qui a été enseignée plus loin, Daf Kavav Amud Alef. Loïta Adam Ilan Samuch Lasade. Un homme n'a pas le droit de planter un arbre à proximité d'un champ, qu'il s'agisse d'un champ de céréales ou d'un verger. Et là, imken irchik mimenu arba amot, à moins de s'éloigner de la bordure de ce champ d'une distance de 4 coudées. Ve Taneala, il a été enseigné dans une braïta pour expliquer cette Mishnah. Arba Amot chez Amrou, lorsque les Chachamim ont exigé de s'éloigner de la bordure du champ d'une distance de 4 coudées pour planter un arbre, Kede Avodat Akerem, c'est parce que c'est l'espace nécessaire pour le travail du vignoble. C'est-à-dire, la charrue étant d'une largeur de 4 coudées, et le propriétaire de ces arbres, qu'il s'agisse d'un vignoble ou d'un autre verger, voudra retourner la terre avec une charrue autour de ces arbres. S'il ne s'éloigne pas de cette distance de 4 coudées, il pénétrera forcément dans le terrain de son voisin, si ce n'est que, comme le précise le Tosfot, pour retourner la charrue. C'est pour cela donc que cet éloignement de 4 coudées est obligatoire. Alors la Gemara a déduit, Tama de Mishum Kede Avodat Akerem, la raison que nous donnons pour s'éloigner de la bordure de son terrain pour planter un arbre, ce n'est que à cause du travail du vignoble, c'est-à-dire uniquement pour ne pas qu'il pénètre dans le terrain de son voisin pour retourner sa charrue. Ha, lav mishum kede avodat akerem. Nous pouvons donc déduire que si ce n'était pas à cause de cette raison qu'il faut un espace pour travailler le vignoble, par exemple parce que dans cet endroit l'usage n'était pas de le labourer avec une charrue, Samir, il aurait eu le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour planter des arbres. Ve'af al gav di'ka shorashin de'kamazke, bien que les racines provenant de cet arbre, vont causer des dégâts dans le champ du voisin lorsqu'ils pousseront. Parce qu'environ dans un périmètre de 4 coudées autour de l'arbre, les racines ne sont pas encore profondes et vont gêner le passage de la charrue chez le voisin. Et en plus, si le voisin voudra creuser un puits, les racines vont abîmer celui-ci dans un périmètre de 25 coudées autour de cet arbre. Par conséquent, cette personne qui veut planter un arbre dans son terrain aurait dû s'éloigner d'une distance de 25 coudées de la bordure de celui-ci. Nous avons donc une question d'ici sur l'opinion de Rava. L'Agma répond, Hacha Bema Yaskinan, ici dans cette Mishnah, de quel cas il s'agit? De Mafsik Tsunma. Il s'agit d'un cas où entre les deux terrains, il y a un rocher enfoui dans la terre qui empêchera le passage des racines. C'est pour cela que si ce n'était à cause du travail du vignoble, c'est-à-dire à cause de l'espace nécessaire pour retourner la charrue, qui est de 4 coudées, il n'aurait pas été nécessaire de s'éloigner de la bordure de son terrain pour planter cet arbre, parce que les racines ne pénétreront pas dans le champ du voisin. Selon le Masoret Hashas, nous sautons la parenthèse et nous lisons ainsi, Tashma, viens écoute une preuve d'un autre passage de la Mishnah qui a été enseigné plus loin, Daf Kavav Amud Alef. Haya Gader Ben Taïm, s'il y avait une clôture entre les deux champs, donc finalement, de toute façon, il ne peut pas faire rentrer sa charrue dans le champ du voisin. Et même si le champ du voisin était un champ de céréales, il n'y a pas à craindre qu'il y ait ici l'interdiction de mélanger la vigne avec des céréales, parce que la clôture est considérée comme une séparation suffisante. Par conséquent, « Zé somer le gader mikan » celui-ci peut se rapprocher de la clôture pour planter des arbres, « Vezé somer le gader mikan » et l'autre voisin peut aussi se rapprocher de la clôture pour planter des arbres ou des céréales de l'autre côté de la clôture. Bien que les racines de l'arbre qui sera planté pénétreront dans le champ du voisin et le gêneront lorsqu'il voudra labourer son champ, comme nous l'avons expliqué plus haut, ou bien lorsqu'il voudra creuser un puits. Nous préciserons que puisque le voisin ne laboure pas constamment son champ, et d'autre part les racines prennent longtemps pour s'étendre dans le champ du voisin de manière à gêner le labour, la Gemara considère que le fait de planter un arbre à proximité de la bordure de son terrain est considéré comme une action qui est faite alors que le voisin n'est pas gêné dans sa situation actuelle. C'est pour cela que nous avons ici une question sur l'opinion de Rava, qui exige de prendre des précautions même lorsque le voisin n'est pas gêné dans sa situation actuelle. Alors nous lisons ici, selon le Masoret Hashas, Hachanami Betsumma. Ici aussi, il s'agit d'un cas où il y a un rocher enfoncé dans la terre qui empêchera les racines de s'étendre dans le terrain du voisin. Alors la Gemara demande, Yahri, si c'est ainsi, Emma Sefa, voyons voir la fin de cette Mishnah, qui continue et dit, Hayu Sharashav Yotzim Betor Shel Chavero, si ses racines, donc de son arbre, rentraient dans le terrain de son voisin, Ma'amik Lahen Shloshat Fachim, le voisin peut les couper jusqu'à la profondeur de trois Tfachim, Kedesh Lo Yakev Amachrecha, pour ne pas gêner la charrue, en d'autres termes, pour ne pas gêner le labour. Alors la question se pose, Vi'id Mapsik Tsunma, et si dans notre Mishnah il s'agit d'un cas où il y a un rocher sous terre qui empêche les racines de s'étendre dans le terrain du voisin, Mai Bahuatam, qu'est-ce que les racines font là-bas? C'est-à-dire, comment se fait-il que les racines de l'arbre aient pénétré dans le terrain du voisin? L'Agma répond, Hachika Amar, c'est cela que la Mishnah a voulu dire. Ve'ilav Tsunma, et s'il n'y avait pas de rocher planté dans la terre pour empêcher les racines de l'arbre de s'étendre dans le terrain du voisin, et donc celui-ci avait planté son arbre alors qu'il n'avait pas le droit, et ses racines pénétraient dans le terrain de son voisin, il aura le droit de couper les racines de l'arbre jusqu'à la profondeur de trois tfachim, pour ne pas gêner la charrue, c'est-à-dire pour ne pas gêner le labour. En fait, comme le précise le Tosfot, la Mishnah d'Avkafé Amoudbet a enseigné que celui qui plante un arbre alors qu'il n'avait pas le droit, son voisin peut exiger qu'il le coupe en le dédommageant pour son arbre. Mais la Mishnah ici a voulu nous enseigner une solution où celui-ci peut donc couper une partie des racines sans payer de dédommagement. La Gemara continue, Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah qui a été enseignée plus loin d'Avkafé Amoudbet. Marchikin et Haïlan Minabor Esrim Bechamesh Amah. Il faut éloigner l'arbre du puits du voisin d'une distance de 25 coudées. Et cela parce que les racines de l'arbre s'étendent dans un périmètre de 25 coudées et à la longue, ils finiront par fragiliser les parois du puits et il s'effondrera. Nous pouvons donc déduire d'ici, Tama de Ikabor, ce n'est que parce que le voisin possède un puits qu'il faut éloigner l'arbre d'une distance de 25 coudées, ha l'Ikabor, mais si le voisin ne possédait pas de puits, Samir, il a le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour planter un arbre. Nous avons donc une question sur l'opinion de Rava. L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah. Qu'il est Kabor, même lorsque le voisin ne possède pas de puits, Nami lo Samir, il n'aura pas non plus le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour planter un arbre. Et cela parce que le voisin risque de vouloir creuser un puits, et à ce moment, il sera gêné par les racines de l'arbre. Ve hakamash malan, et c'est cela que la Mishnah vient nous enseigner, de at kafe ama, jusqu'à la distance de 25 coudées d'un arbre, azle shorashim ou mazkele bor. Les racines s'étendent et endommagent le puits. Il s'agit donc d'un conseil d'ordre pratique. Alors la Gemara demande, yachi, si c'est ainsi, emasefa, voyons voir la fin de la Mishnah. La Mishnah dit en effet, veim ilan kadam, et si l'arbre a été planté avant que le voisin ne possède de puits, lo yakutz, il n'aura pas l'obligation de couper son arbre. Alors la question se pose, Vei de l'Osamir, et s'il n'avait pas le droit de se rapprocher du bord de son terrain pour planter un arbre, il avait donc l'obligation de s'éloigner d'une distance de 25 coudées pour planter son arbre, Hechimash Kachatla. Comment pouvons-nous trouver une situation où l'arbre a été planté avant que le voisin ne creuse son puits. La Gemara répond que Déamar Rav Papa Belokear, de la même manière que Rav Papa a répondu à une autre question que nous verrons plus loin, qu'il s'agit d'un acheteur, Hachanami, ici aussi nous donnerons la même réponse. Belokear, il s'agit d'un cas où une personne a planté son arbre dans son champ, et puis par la suite, il a vendu la moitié de son terrain. Et lorsque l'acheteur vient creuser son puits, il se trouve à une distance de moins de 25 coudées de l'arbre, il est donc gêné par les racines de l'arbre. Dans ce cas, la Mishnah nous enseigne que le vendeur n'aura pas l'obligation de couper son arbre, parce que lorsqu'il l'a planté, il avait le droit de le faire parce qu'il ne gênait personne. Alors la Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah qui a été enseignée plus loin, Daf Kafé Amoud Alef. Marchikin et Hamishra Minayerek, il faut éloigner le bassin où on laisse tremper le lin des légumes comme le chou, parce que les mauvaises odeurs dégagées par ce bassin sont nocives pour les légumes. Veta Krishin Minabetsalim, il faut aussi éloigner les poireaux des oignons, parce que la présence des poireaux est nocive pour les oignons. Veet Hachardal Minahadvorim, et il faut aussi éloigner la plantation de moutarde des ruches d'abeilles, parce que la présence de la moutarde est nocive pour les abeilles. En effet, lorsqu'elles viennent butiner les plantes de la moutarde, le goût fort et piquant de la moutarde va leur causer de manger leur miel. Il est vrai que, comme le demande le Rashba, dans ce cas, les dégâts ne proviennent pas directement de la moutarde, mais c'est plutôt les abeilles qui viennent en manger. Donc la moindre des choses aurait été de dire au propriétaire des abeilles de les éloigner s'il ne veut pas qu'elles mangent de la moutarde. Cependant, comme l'explique le Netivot HaMishpat dans Siman Kufnunhe Sivkata Nutret, puisque d'une part, il est impossible de surveiller ces abeilles, qu'elles n'aillent pas butiner ailleurs, et d'autre part, il est impossible de défendre à une personne d'élever des abeilles. D'ailleurs, en général, personne n'est gêné par le fait que des abeilles viennent butiner chez lui. Nous ne considérerons pas l'éleveur d'abeilles comme endommageur. Par conséquent, nous dirons que c'est au propriétaire de la moutarde de prendre ses précautions, puisque finalement c'est la seule plante qui gêne les abeilles, et de l'éloigner pour ne pas gêner justement les abeilles. En tout cas, la Gemara déduit, Tama de Kayerek, ce n'est que parce que le voisin possède des légumes qu'il doit éloigner le bassin où on laisse tremper le lin, et les autres choses enseignées par la Mishnah, Ha le Kayerek, mais si le voisin ne possédait pas de légumes, Samir, il aurait pu s'approcher de la bordure de son terrain pour y mettre un bassin pour tremper le lin. Et aussi, si le voisin n'avait pas planté des oignons, il aurait eu le droit de s'approcher de la bordure de son terrain pour planter des poireaux. Ou bien, si le voisin ne possédait pas d'abeilles, il aurait pu s'approcher de la bordure de son terrain pour planter de la moutarde. Bien que par la suite, le voisin puisse changer d'avis et vouloir planter des légumes, des oignons ou élever des abeilles, qui seraient gênés par la suite respectivement par le bassin où on laisse tremper le lin, les poireaux et la moutarde. Nous avons donc d'ici une question sur l'opinion de Rava, qui lui exige de prendre des précautions, même si le voisin n'est pas dans une situation où il serait gêné immédiatement. L'Agma répond, « Lo, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, mais qu'il est kayerek namilo samir. Même si le voisin n'avait pas planté des légumes, quand même, il n'aura pas le droit de s'approcher de la bordure de son terrain pour y mettre un bassin pour tremper le lin. Et aussi, si le voisin n'avait pas planté des oignons, quand même, il devra s'éloigner de la bordure de son terrain pour planter des poireaux, etc. Behakamashmalan, et c'est cela que la Mishnah vient nous enseigner. Dehane kashu aadade, que ces produits cités dans la Mishnah sont nocifs pour les autres cités dans la Mishnah. C'est-à-dire, la présence d'un bassin où on laisse tremper le lin est nocive pour les légumes, et celle des poireaux est nocive pour les oignons, et celle de la moutarde est nocive pour les abeilles. Il s'agit donc d'un conseil d'ordre pratique. Alors la Gemara demande, Yahi, si c'est ainsi, et Masefa, voyons voir la fin de la Mishnah. En effet, la Mishnah dit, Rabbi Yossi matir bechardal, Rabbi Yossi permet la plantation de moutarde à proximité des abeilles. Selon le Masoret Hashas, nous ajoutons ici, Vetane Allah, et il a été enseigné une braïta pour expliquer cette Mishnah, qui dit ainsi, Mipne sheachol lo marlo, parce que le propriétaire de la moutarde peut dire au propriétaire des abeilles, avant de venir me dire éloigne ta moutarde de mes abeilles, éloigne-toi tes abeilles de ma moutarde, parce qu'elles viennent manger les fleurs ou les jeunes pousses de ma moutarde lorsqu'elles viennent butiner. Finalement donc, elles me causent des dégâts. Par conséquent, soit nous partagerons tous les deux l'écart nécessaire pour ne pas qu'on soit gênés mutuellement, et si tu ne veux pas toi aussi t'écarter, moi je me rapprocherai de la bordure de mon terrain pour planter de la moutarde, et je suis prêt à subir les dégâts causés par tes abeilles. Et tu seras toi aussi obligé de subir les dégâts causés par ma moutarde. En d'autres termes, selon l'opinion de Rabbi aussi, il sera impossible d'imposer les précautions à un seul de ses voisins, puisqu'ils se gênent mutuellement. Nous préciserons cependant, comme l'explique le Tosfot, ce cas ne ressemble pas à l'enseignement de la Mishnah, qui interdit à l'un des voisins de creuser un puits à proximité du puits de l'autre voisin. Bien que finalement, ils se gênent mutuellement, mais là, le deuxième voisin n'aura pas le droit de creuser son puits à proximité du premier. Il devra donc s'éloigner d'une distance de 6 tfachim, qui est l'écart total nécessaire entre les deux puits, parce qu'en creusant, il endommage le puits du voisin, comme nous l'avons vu plus haut dans la Gemara, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors que dans le cas de moutarde avec les abeilles, il ne s'agit pas de dégâts causés directement par les actions de cette personne. Il sera donc impossible d'imposer à un seul des voisins de prendre à lui tout seul toutes les précautions. Alors nous pouvons comprendre cette discussion entre les Chachamim et Rabbi aussi, si nous suivons l'opinion de Abayé, selon lequel il n'est pas nécessaire de prendre des précautions lorsque le voisin ne sera pas gêné dans sa situation actuelle. En effet, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, les Chachamim considèrent que les abeilles ne causent pas des dégâts. Par conséquent, il est permis de se rapprocher de la bordure de son terrain pour installer des ruches d'abeilles, comme il est permis de planter des oignons et des légumes. Et c'est au second voisin de prendre ses précautions pour ne pas causer des dégâts respectivement aux légumes, aux oignons et aux abeilles, en éloignant respectivement le bassin où on laisse tremper le lin, les poireaux et la moutarde. Rabbi aussi, quant à lui, considère que les abeilles causent des dégâts à la moutarde. Alors même s'il était permis de se rapprocher de la bordure de son terrain pour installer des ruches d'abeilles, cependant, celui qui l'a fait n'a pas agi correctement, parce qu'il aurait dû prendre en ligne de compte que le voisin voudra planter de la moutarde. Par conséquent, lorsque le voisin veut effectivement planter de la moutarde, il pourra lui dire « ou bien toi aussi tu t'éloigneras, ou bien moi non plus je ne m'éloignerai pas ». En fait, il laisse le choix au propriétaire des abeilles.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Yutret Amudbet. Vei de los Amir. Mais si nous suivons l'opinion de Rava, selon lequel il est interdit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour faire une action qui gênera son voisin, même si dans sa situation actuelle, il ne sera pas gêné. Alors même si nous pouvons expliquer l'opinion des Chachamim, comme nous l'avons expliqué selon Abayé, mais selon Rabbi aussi, comment pouvons-nous trouver un cas où une personne s'est rapprochée de la bordure de son terrain pour installer des ruches? Puisque finalement, selon Rabbi aussi, nous considérons que les abeilles causent des dégâts. Dès le départ, le voisin aurait pu l'empêcher d'installer ses ruches à la bordure de son terrain. Il aurait dû le forcer de s'éloigner d'au moins la moitié de l'écart nécessaire pour ne pas que les abeilles causent des dégâts à la moutarde. L'agma répond, Amarav Papa, Belokeach. Il s'agit ici d'un acheteur. C'est-à-dire, nous parlons d'un cas où une personne a installé un bassin pour laisser tremper du lin, ou bien il a planté des poireaux, ou bien il a planté de la moutarde, puis il a vendu la seconde moitié de son terrain. Puis, lorsque l'acheteur vient planter des légumes, des oignons, ou bien installer une ruche d'abeilles, il vient se plaindre chez le vendeur pour qu'il éloigne les produits qui le gênent. Alors, selon les Chachamim, l'acheteur aura raison, il pourra exiger que le vendeur éloigne les produits qui le gênent. Selon Rabbi aussi, l'acheteur n'aura pas raison lorsqu'il exige du vendeur d'éloigner sa moutarde qui gêne ses abeilles, puisque les abeilles causent des dégâts aussi à la moutarde. Alors la Gemara demande, Ibelokeach, s'il s'agit d'un acheteur, comme nous l'avons expliqué, Maitama de Rabbanan, quelle est la raison de Chachamim, puisque lorsque le vendeur a installé ses produits qui gênent, il avait tout à fait le droit de le faire parce qu'il le faisait dans son domaine. Il ne gênait personne. Donc pourquoi, lorsque l'acheteur vient se plaindre par la suite, il pourra exiger du vendeur qu'il éloigne les produits qui dérangent? Ve'od, et en plus, Maïta Maderabi aussi, Quelle est la raison de Rabbi Yossi qui est en désaccord avec les Chachamim uniquement concernant les abeilles? Afilou Mishrabi Arkanami, même concernant le bassin pour tremper le lin qui gêne les légumes, il aurait dû être aussi en désaccord avec les Chachamim, puisque finalement, de la même manière que le propriétaire de la moutarde n'a pas besoin de l'éloigner puisqu'il l'a planté alors qu'il avait le droit, on devrait dire aussi la même chose concernant le bassin pour tremper le lin, que son propriétaire ne devrait pas avoir l'obligation de l'éloigner, puisque finalement, lorsqu'il l'a installé, il avait tout à fait le droit de le faire, puisque c'était dans son domaine. Voilà que ma réponse, Amar Ravina, Kasavre Rabbanan, le Chachamim pense à la mazik, la riketatsmo. C'est celui qui cause des dégâts, qui doit prendre ses précautions. C'est-à-dire, même dans le cas où cette personne avait tout à fait le droit d'installer ses produits qui gênent, parce qu'il l'a fait dans son domaine, c'est seulement après qu'il a vendu une partie de son terrain, quand même, puisque c'est finalement lui la cause des dégâts, il devra s'éloigner lorsque son acheteur viendra se plaindre. Le vendeur devra donc éloigner le bassin pour tremper le lin, les poireaux et la moutarde. Parce que, comme l'explique le Tosfot, le vendeur ne perd pas grand-chose à les bouger. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une personne qui a planté un arbre, puis il a vendu la moitié de son terrain, l'acheteur ne pourra pas exiger qu'il le coupe lorsqu'il voudra creuser un puits, parce qu'il s'agit d'une grande perte, et les Chachamim n'étaient pas exigeants dans ce cas. Finalement donc, c'est à l'acheteur d'éloigner son puits s'il ne veut pas être dérangé par les racines de l'arbre du vendeur. Alors la Gemara va expliquer maintenant l'opinion de Rabbi Yossi, sans tenir compte de ce que nous avons expliqué plus haut. La Gemara demande, Miklal de Rabbi Yossi Savar, nous pouvons donc déduire de là que Rabbi Yossi pense à l'anizak, l'arrik et tatsmo, que c'est à la personne qui est gênée de s'éloigner pour ne pas être gênée par son voisin, et c'est pour cela donc que c'est au propriétaire des abeilles de s'éloigner s'il ne veut pas être gêné par la moutarde, si c'est ainsi, et à l'anizak, si c'est à la personne qui est gênée de s'éloigner pour ne pas être gênée par son voisin, afilou mishravi arkanami, même dans le cas du bassin pour tremper le lin et les légumes, Rabbi aussi aurait dû être aussi en discussion avec les Chachamim et de dire que c'est à l'acheteur, donc au propriétaire des légumes, de s'éloigner pour ne pas être gêné par le bassin pour tremper le lin. La Gemara répond, et là, c'est pour cela que nous dirons, le Olam Rabbi aussi Nami Alamazik Svirale. Toujours pourrais-je te dire que Rabbi aussi est aussi d'accord avec les Chachamim que c'est à la personne qui gêne de s'éloigner pour ne pas gêner son voisin. Et c'est cela que Rabbi aussi a dit aux Chachamim. Tinach, Mishra, Veyarka. Nous pouvons comprendre encore le premier cas de la Mishnah, donc du bassin pour tremper le lin et les légumes. Dehane, Mazke, Hane. Parce que les premiers cités dans la Mishnah gênent les seconds. Vehane, lo Mazke, Hane. Et les seconds ne gênent pas les premiers. C'est-à-dire, c'est le bassin pour tremper le lin qui gêne les légumes, et c'est les poireaux qui gênent les oignons, et non pas le contraire. Et c'est pour cela donc que c'est à la personne qui gêne de s'éloigner pour ne pas gêner son voisin. Et là, Hardal Vedborim, mais dans le cas de la moutarde et des abeilles, Tarvayu Mazke Adade, ils se gênent mutuellement. Par conséquent, pourquoi est-ce que nous disons que c'est au propriétaire de la moutarde qu'incombe de prendre les précautions de ne pas gêner les abeilles? Au contraire, puisque lorsqu'il a planté sa moutarde, il avait tout à fait le droit de le faire parce que c'était dans son domaine, il ne gênait personne, on aurait dû dire que c'est au propriétaire des abeilles qu'incombe l'obligation de prendre des précautions, et c'est lui seul qui aurait dû laisser l'écart nécessaire pour ne pas que les abeilles et la moutarde se gênent mutuellement. Et c'est pour cela donc que dans ce cas, le propriétaire de la moutarde, donc le vendeur, n'aura pas d'obligation de s'éloigner pour ne pas gêner les abeilles. La Gemara conclut, Verabanan, et les Chachamim qui sont en désaccord avec Rabbi aussi, qui disent que c'est au propriétaire de la moutarde qu'incombe l'obligation de s'éloigner, c'est parce que Dvorim et les Chardal l'omaskele. Les Chachamim estiment que les abeilles ne causent pas de dégâts à la moutarde. Parce que, Ibebinta, si nous parlons des graines de moutarde, l'omashkechale, les abeilles n'arrivent pas à atteindre ces graines parce qu'elles sont dans une enveloppe, les mettant hors de portée des abeilles. Ibetarfa, s'il s'agit des feuilles de la plante de la moutarde, hadarpare, nous ne pouvons pas considérer cela comme un dégât parce qu'elles poussent à nouveau. Finalement donc, puisque nous considérons que les abeilles ne causent pas de dégâts à la moutarde, c'est au propriétaire de la moutarde qu'incombe l'obligation de prendre ses précautions pour ne pas gêner les abeilles. Alors la Gemara demande, « Vesava Rabbi aussi à la mazik l'archik et tatsmo » Est-ce que Rabbi aussi pense que c'est à la personne qui gêne son voisin de prendre ses précautions pour ne pas le gêner, même lorsqu'il s'agit de dégâts qui ne sont pas direct et immédiat. Ve'atnan, pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah, plus loin, Daf Kafé Amoudbet. Alors, le premier auteur de la Mishnah dit qu'il faut éloigner l'arbre du puits du voisin. Si, quand même, il a planté son arbre sans l'éloigner suffisamment du puits de son voisin, le propriétaire du puits pourra exiger que le propriétaire de l'arbre le coupe. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit là-dessus, « Afalpi shabor kodemet leilan » Bien que le puits du voisin existait avant que l'autre a planté son arbre, lo yakutz, il ne pourra pas exiger que celui-ci coupe son arbre. Sheze chofer betor shelo, parce que celui-ci creuse son puits chez lui, vezenote betor shelo, et celui-ci plante son arbre chez lui, c'est-à-dire, chacun a le droit d'utiliser sa propriété comme il l'entend, sans prendre de précautions lorsqu'il s'agit de dégâts qui ne sont pas directs et immédiats. Par conséquent, c'est à la personne qui se trouve gênée par les actions de son voisin de s'éloigner pour ne pas être gênée. Puisque c'est ainsi, la personne qui veut installer un bassin pour tremper le lin ne devrait pas avoir de précautions à prendre, puisqu'il ne s'agit pas de dégâts directs et immédiats. L'Agma répond, et là, le Olam, toujours pourrais-je te dire, Rabbi aussi, Ananizak Svirale. Rabbi aussi pense que c'est à la personne qui se trouve gênée par les actions de son voisin de s'éloigner pour ne pas être gênée par celle-ci. Ou le divrem de Rabbanan Kamar Lehu, et lorsque Rabbi aussi parle dans la Mishnah, il parle selon l'opinion de Chachamim. C'est-à-dire, le Didi, selon mon opinion, Ananizak Larchik et Atzmo, c'est à la personne qui se trouve gênée par les actions de son voisin de s'éloigner s'il ne veut pas être gêné par celle-ci. Par conséquent, va filou mishra ve'arka, même dans le cas du bassin pour tremper le lin et les légumes, l'obaïr ruke, cette personne qui veut installer le bassin pour tremper le lin, n'a pas besoin de s'éloigner pour le faire. Et c'est à la personne qui veut planter les légumes de s'éloigner s'il ne veut pas être gêné par le bassin pour tremper le lin. Et aussi, c'est à la personne qui veut planter les oignons de s'éloigner s'il ne veut pas être gêné par les poireaux de son voisin. Et là, les détrous, mais selon votre opinion, de amrito à la mazik, selon laquelle vous dites que c'était la personne qui gêne son voisin de s'éloigner et de prendre des précautions pour éviter de gêner son voisin. Tinach, Mishra, Viarka. Je peux admettre que dans le cas du bassin pour tremper le lin et les légumes, des Hané, Mazke, Hané, où c'est le premier qui gêne le second, Vehané, Lomazke, Hané, et les seconds ne gênent pas le premier, c'est-à-dire, respectivement, c'est le bassin pour tremper le lin et les poireaux qui gênent les légumes et les oignons, et non pas le contraire. C'est pour cela que je peux admettre que nous disons à la personne qui veut installer ce bassin pour tremper le lin ou celle qui veut planter les poireaux de s'éloigner de la personne qui plante les légumes et les oignons pour ne pas gêner son voisin, même lorsqu'il l'a fait, il avait tout à fait le droit de le faire parce qu'il était dans sa propriété et il ne gênait personne. Et la chardalou dvorim, mais dans le cas de la moutarde et les abeilles, tarvayou mazke adade, ils se gênent mutuellement. Finalement, pourquoi c'est au propriétaire de la moutarde de prendre ses précautions pour ne pas gêner son voisin? Au contraire, on devrait dire que c'est au propriétaire des abeilles de ne pas les mettre à proximité de la moutarde pour éviter de causer des dégâts à cette moutarde, alors que finalement, lorsqu'il avait planté cette moutarde, il avait tout à fait le droit de le faire, il était dans son domaine, comme nous l'avons expliqué. Verabanan et les Chachamim répondent là-dessus, Dvorim lechardal lomazkele. Nous considérons que les abeilles ne causent pas des dégâts à la moutarde. Parce que, i bebinta, si nous parlons des graines de moutarde.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.